pour lequel est en bonne partie encore à écrire. Il y a un retard de la réflexion et une maîtrise généralisée des paradigmes interprétatifs. Dans la dernière décennie, des écrits pertinents ont été produits sur la métropole. Le grand problème qui est au cœur de ces écrits, c'est le lien entre le processus de mondialisation et le développement des villes. On a évoqué souvent la mondialisation comme la cause d'un changement des villes qui est encore difficile à déchiffrer et dont seulement les conséquences sont évidentes. On a constaté empiriquement des phénomènes tout à fait nouveaux. Le progressif détachement de certaines villes de l'arrière-pays national, la croissance des villes géantes dans les pays moins développés, la crise et le déclin de vieux centres industriels dans les pays développés. Je n'ai pas envie d'ennuyer avec des chiffres, mais il faut souligner que nous avons été dans les dernières deux décennies témoins d'un changement énorme dans l'urbanisme mondial. La crise urbaine que nous sommes en train de traverser a des proportions inouïes. La population urbaine de la planète s'est accrue de 1000 millions d'habitants entre l'an 1980 et l'an 2000. Dans l'année courante, le 2005, la partie de l'humanité qui vit en ville est pour la première fois de l'histoire supérieure à la partie qui vit à la campagne. Le troisième millénium s'annonce donc comme une époque d'agglomération urbaine géante, et comme a répété maintes fois Kofi Annan, d'urbanisation de la planète. Au commencement du XXe siècle, seulement 4 métropoles comptaient plus qu'un million d'habitants. Aujourd'hui, 372 métropoles ont plus d'un million et 45 ont plus que 5 millions d'habitants. Mais il s'agit d'une crise dans laquelle l'aspect démographique n'est pas le seul important, mais qui concerne économie, politique et culture. Il s'agit d'une véritable crise de civilisation. On pense aujourd'hui que la mondialisation est en train d'engendrer une géographie de la centralité et de la marginalité complètement nouvelle, qui exige une rupture nette avec le vieux concept des centres périphériques, nord et sud, est et ouest. En particulier dans la littérature, a été remarqué beaucoup de fois que les transformations des dernières décennies ont produit une nouvelle hiérarchie de villes, qui a au sommet un réseau de villes dominantes. Appelées selon certaines théories « world cities », villes mondiales, selon d'autres « global cities », villes globales. Ces réseaux de villes constitueraient le véritable cœur d'un capitalisme de plus en plus décentralisé, rhizomatique, sans cœur. Malheureusement, les recherches empiriques ont été limitées et la plus grande partie de la production sur ces sujets s'est limitée à répéter des hypothèses dérivées des écrits célèbres sur la question. Par exemple, la dominance de Londres, de New York et de Tokyo a été maintes fois répétée, mais jamais démontrée d'une façon définitive. Pour mieux comprendre les raisons de cette faiblesse de la théorie, il est nécessaire de faire un peu d'histoire des concepts. Considérons avant tout les concepts clés. World City, ville mondiale. On a beaucoup insisté sur l'anticipation que Sir Peter Paul avait donnée de cette thématique avec son bouquin de 1966, qui avait comme titre « Les villes mondiales ». Mais, à la vérité, Hall avait uniquement remarqué l'importance mondiale de certaines villes, qui centralisaient des activités spécifiques, qui fonctionnaient comme des capitales de la finance plutôt que des arts, des spectacles ou de la bureaucratie. Son idée, qui n'était pas complètement nouvelle, s'était arrêtée à ce type de considérations qui mettent en relief les relations mondiales et le caractère cosmopolite de ce type de villes. en réalité, c'est un économiste qui s'était nourri du savoir des historiens de l'entreprise et de l'administration, Stephen Finer, le premier qui, dans un essai qui date de 1972, a tracé les lignes du World City System. L'importance de Finer n'est pas uniquement philologique. Il nous donne la possibilité de comprendre certains enjeux politico-économiques qui sont liés à l'hypothèse du World City System. Il prévoyait que la structure du futur réseau des villes aurait suivi la structure de l'entreprise multinationale. Avec la croissante internationalisation, les activités liées au fonctionnement quotidien de l'entreprise se seraient répandues sur la planète, avec la création de centres de production au dehors du centre. L'aspect le plus intéressant de l'anticipation de Finer, c'est qu'il avait compris que la division montrée par les historiens de l'entreprise, surtout Chandler, et en trois niveaux de management, le niveau de la production, le niveau moyen de la coordination des managers et le niveau plus haut des définitions des objectifs et de planification, avec la dispersion planétaire de la production, aurait donné lieu à une concentration de différents niveaux dans des villes différentes. Surtout les activités au niveau plus haut, interpersonnel direct et qui concerne la prise des décisions et l'interaction avec les marchés des capitaux, les médias et les politiciens se seraient concentrés dans un nombre très réduit de villes, reliées entre elles, entourées par une série de sous-capitales régionales. Le reste du monde serait resté confiné à des activités de basse qualification, qui donne aussi un revenu limité. C'est-à-dire que revenu, statut, autorité, niveau de consommation des villes serait un jour dérivé de la mise en réseau des villes et des activités qui en découlent. La schématisation de Finer comportait donc la possibilité que le régime des grandes villes ait créé un bouleversement dans la hiérarchie urbaine préexistante. Mais il croyait encore que le changement aurait laissé le tiers-monde dans une condition périphérique, malgré la formation des centres locaux avec des fonctions de coordination et de contrôle. Innovatrice dans ses conceptions, la réflexion de Finer restait donc prisonnière d'une vision traditionnelle de l'impérialisme, dans laquelle la métropole dominait complètement l'urbanisme dépendant. Mais la formulation et en même temps la reprise de l'hypothèse des villes mondiales est liée au nom de John Friedman, qui en 1986 a élaboré une série de généralisations à l'égard du rôle joué par les villes dans la mondialisation ici à synthétiser. Cligner que sur l'économie mondialisée et les fonctions spécifiques qu'elle recouvre dans la nouvelle division spatiale du travail sont décisives pour tous les changements qui arrivent à l'intérieur des villes mêmes. Il y a des villes clés dans le capitalisme mondialisé qui sont utilisées comme base pour l'organisation et l'articulation de la production et des marchés. Les fonctions de contrôle que la ville exerce au niveau mondial se reflètent directement dans la structure et dans la dynamique de ce secteur de la production et de l'emploi. Les villes mondiales sont les lieux principaux des concentrations et d'accumulation du capital international. Elles exercent en même temps un magnétisme accentué sur le flux des migrants. Du point de vue politique et social, la formation des villes mondiales rend évident les principales contradictions du capitalisme, avant tout la question spatiale et des classes. L'analyse de Friedman non seulement replace la réflexion sur la ville dans les discours sur le capitalisme et sur ses modifications, après de longues années qui avaient vu prévaloir des études urbaines orientées par les paradigmes de l'écologie humaine, mais aussi ouvre des perspectives à l'analyse du capitalisme qui vont bien au-delà d'un simple changement heuristique, Les villes mondiales sont des centres qui ont le pouvoir d'unifier un champ déterminant pour l'économie mondiale. Maintenant, et en même temps, articulent les économies régionales, nationales et internationales dans l'économie mondialisée. Mais, très important, l'économie qui sont organisées par les villes mondiales ne représente pas la totalité de l'économie planétaire. Il y a des régions qui restent isolées, en dehors du World City System. Surtout, dans son ouvrage de 1995, Friedman a souligné qu'une partie considérable du monde opère en dehors du World City System. Les conséquences sont évidentes. Si la théorie de World City s'est fondée, on peut mettre à la certaine courante néo-marxiste, en particulier la théorie de la dépendance. Et aussi la théorie du système monde, dans la version Wallerstein, avec sa distinction classique en centre, périphérie, semi-périphérie. Friedman a suggéré que la mondialisation a exclu une grande partie de la population de la planète des réseaux qui comptent, et qu'elle est en train de rendre la périphérie capitaliste pas importante sur le plan économique. Nous nous trouvons ici confrontés à une théorie pluraliste du capitalisme, qui contraste avec le monisme néo-marxiste et qui érige un monument funéraire aux vieilles théories de la modernisation. Le développement du Sud peut se réaliser par des passages qui n'ont rien en commun avec les degrés précédents du développement du Nord. Tandis qu'Himmer avait encore une vision statique de la hiérarchie urbaine, maintenant de nouveaux pouvoirs s'annoncent. La hiérarchie, c'est, en théorie, ouverte. Les niveaux supérieurs ne sont pas réservés à des villes situées dans les pays développés. L'histoire passée du Nord du monde et des relations Nord-Sud est une histoire inutile, inutilisable, dans un contexte profondément transformé. Il y a une nouvelle hiérarchie, une nouvelle mobilité de la hiérarchie qui contraste brusquement avec la tradition de l'analyse marxo-cole, souvent fixée sur des catégories statiques empruntées à l'analyse du capitalisme du siècle. On dirait quelquefois plus humbertienne que marxiste. Le paysage déligné par Friedman, c'est celui qui conduit à la naissance d'un archipel de villes, d'un chemin connecté entre elles, situé dans un espace neutre, qui n'est plus organisé selon des catégories nord-sud. Comme une chaîne qui entoure la planète, les villes s'entrelacent entre elles, règnent des territoires sans domine la nouvelle périphérie. Le tableau montré est un tableau de mobilité extrême, dans lequel les villes peuvent accéder au sommet de la hiérarchie et descendre avec la même vitesse. Il y a de cette façon la possibilité d'un substantiel glissement des positions relatives. Et ça signifie la rupture par éruption des cartes bien admises du système monde wallersteinien. Mais si cette théorie a une validité, ça peut représenter la fin aussi pour les hétérodoxies du développement autocentré à la Sartre, ou pour l'utopie de la décroissance à la Latouche. La seule chance qui reste à tous ceux qui sont restés au dehors du World City System, c'est de se forcer d'entrer dans le club. Mais l'autre point très innovateur qui sort de l'analyse de Friedman, c'est la formation d'une classe capitaliste transnationale, unifiée par des intérêts communs. La naissance d'une classe globale, qui est la classe dominante de l'époque de la mondialisation, se manifeste de différentes façons. Les membres de ce groupe ont tendance à penser dans une perspective globale plutôt que locale, à se considérer citoyens du monde. Ils ont en commun le style de vie. L'autre contribution célèbre à la théorie des métropoles est le travail de Saskia Sassen. Il s'agit d'une version particulière de la théorie de Friedman, dans laquelle est soulignée la nouveauté d'une dualité complexe qui aujourd'hui gouverne le processus de globalisation. La décentralisation de la production n'est pas accompagnée d'une décentralisation du contrôle. Au contraire, le contrôle a subi une recentralisation. Un contrôle